Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mardi 26 juillet 2022 avec vous Eric Maniakiza. Voici d'abord le sommaire. Au Burkina, l'ancien président Blaise Compaoré demande pardon à la famille de Thomas Sankara et au peuple burkinabé. C'est dans une lettre à ses compatriotes. Le président français Emmanuel Macron à Yaoundé au Cameroun, dans une conférence de presse conjointe avec Paul Biya, son homologue, il demande à des historiens de faire la lumière sur l'action de la France pendant la colonisation au Cameroun. En RDC, 3 casquets bleus et 12 manifestants contre la mission de l'ONU tués dans l'est du pays. En Tunisie, victoire quasi certaine du oui à un référendum sur une nouvelle constitution. L'opposition accuse l'instance électorale d'avoir falsifié les chiffres. Le slogan des JO 2024 dévoilé, ouvrons grand les yeux, les jeux. Le programme et la billetterie sont aussi détaillés. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, condamné par contumace à perpétuité pour l'assassinat en 1987 de son prédécesseur Thomas Sankara, a demandé mardi pardon à la famille de ce dernier, mais aussi à l'ensemble du peuple burkinabé pour les souffrances endurées pendant ses 27 années au pouvoir. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Au palais présidentiel de Kossia, Ali Koulibaly, conseiller spécial de Alassane Ouattara et Djamila Compaoré, la fille de Blaise Compaoré, apporte une lettre de l'ancien président Blaise Compaoré au président Paul-Henri Sandaogo Damiba. La substance, Blaise Compaoré demande pardon au peuple burkinabé. Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement burkinabé, a lu la lettre.
Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami, Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon.
L'ancien président appelle les Burkinabés à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de la nation. Pour lui, c'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin aux incompréhensions et conflits intercommunautaires pour lutter efficacement contre le terrorisme. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le président français Emmanuel Macron est arrivé pour sa première visite au Cameroun. Il est arrivé hier à Yaoundé avec l'objectif de relancer les relations entre les deux pays. Le président français a été accueilli hier soir à l'aéroport par le premier ministre Joseph Dion Nguté avant un tête-à-tête aujourd'hui avec le président Paul Biya. Les précisions de John Lyndon.
Nous ne lâcherons pas la sécurité du continent africain, a déclaré le président français. Nous resterons mobilisés aux côtés des pays du bassin du lac Tchad pour les aider à lutter contre les terroristes qui endeuillent depuis tant d'années. L'extrême nord du Cameroun a-t-il aussi assuré. Arrivé à la mi-journée au palais présidentiel, Emmanuel Macron a discuté avec son homologue Paul Biya, 89 ans, et qui dirige le pays depuis 40 ans. Une discussion sans aucun tabou, a indiqué l'Élysée. Mais la France n'a pas à s'ingérer, à adouber qui que ce soit ou à donner des leçons, précise la présidence française. Un collectif de partis politiques camerounais a appelé Emmanuel Macron à reconnaître les crimes de la France coloniale. John Frundi, président du SDF, l'un des principaux partis de l'opposition, a demandé un mea culpa de la France pour les violations flagrantes des droits de l'homme et les abus commis par la France pendant la lutte pour l'autodétermination, l'indépendance et la réunification du Cameroun. Après le Cameroun, justement, M. Macron se rendra au Bénin et en Guinée-Bissau.
En réponse à cette requête, le président Macron a demandé à des historiens de faire la lumière sur l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l'indépendance de ce pays. Il a aussi annoncé l'ouverture en totalité des archives françaises sur des moments douloureux et tragiques.
Toujours Emmanuel Macron, au cours de cette conférence de presse, il a dénoncé l'hypocrisie entendue sur le continent africain, consistant à ne pas reconnaître clairement une agression unilatérale de la Russie sur l'Ukraine. Beaucoup de pays africains affichent une neutralité dans ce conflit. Le président ougandais Yoweri Museveni a défendu aujourd'hui les bonnes relations de son pays avec la Russie à l'occasion de la visite du chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov en tournée sur le continent africain. Trois casquets bleus et au moins 12 manifestants ont été tués aujourd'hui dans deux villes de l'est de la RDC au deuxième jour de manifestation contre les Nations Unies accusées d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés. Les manifestations ont commencé hier à Goma, mais se sont étendues aujourd'hui à Lubero, Benin et Butembo, dans le Nord Kivu. Les détails avec Nanit Talani.
Au moins 5 morts, une cinquantaine de blessés, a écrit sur Twitter Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. Nous confirmons avoir reçu 28 blessés par balle hier et ce matin nous venons de recevoir 8 blessés par balle. Certains sont dans un état critique, a déclaré Serge Kilumbiro, chargé de l'administration de l'hôpital de Goma. Ce matin, des centaines de manifestants ont encore envahi les abords de la base logistique de la MONUSCO située hors du centre-ville. Bye bye MONUSCO, scandaient les manifestants. À Beni, au nord de Goma, les activités ont été paralysées. Les stations-service, les magasins et marchés sont restés fermés. Des militaires sont déployés sur la route nationale qui conduit vers la base locale de la MONUSCO dans la ville. La situation a été la même à Butembo, important carrefour commercial du Nord Kivu, où les activités ont été là aussi au point mort. Les manifestants ont été dispersés par les forces de sécurité devant une base de la MONUSCO.
Le président Kais Saied a promis de passer du désespoir à l'espoir grâce à une nouvelle constitution soumise à référendum hier. Malgré un fort taux d'abstention, un institut de sondage estime que le texte a été approuvé à plus de 92%, le point avec Abdourahmane Dia.
Des centaines de partisans du président tunisien sont descendus fêter sa victoire sur l'avenue Bourguiba dans le centre du Tunis. Kais Saied s'est ensuite présenté devant la foule en liesse. La Tunisie est entrée dans une nouvelle phase, a-t-il dit. La nouvelle constitution accorde de vastes prérogatives au chef de l'État en rupture avec le système parlementaire en place depuis 2014. Le Front du Salut National, la coalition d'opposition qui avait appelé à boycotter le scrutin, a accusé l'autorité électorale d'avoir amplifié et falsifié les chiffres sur l'affluence au scrutin en annonçant lundi soir la participation de près de 28% de l'électorat. Pour le FSN, 75% des Tunisiens ont refusé de donner leur approbation à ce qu'il appelle le projet putschiste lancé il y a un an par Kais Saied. Saïd Ben Arbia, de l'ONG Commission internationale des juristes, a aussi critiqué la légitimité d'un vote avec une aussi faible mobilisation.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pape François, en visite au Canada, doit célébrer mardi une grande messe dans un stade de l'ouest du pays au lendemain d'une demande de pardon historique pour le drame des pensionnats pour autochtones. Lors de son premier discours lundi à Masquatis, une réserve autochtone de l'ouest du pays, le pape a déclaré « Je suis affligé, je demande pardon », évoquant les blessures encore ouvertes. Il a reconnu la responsabilité de certains membres de l'Église dans ce système des pensionnats pour autochtones où les enfants ont subi des abus physiques, verbaux, psychologiques et spirituels. Le président américain Joe Biden, positif au Covid depuis jeudi, va de mieux en mieux et peut désormais recommencer à pratiquer une activité physique, a déclaré son médecin personnel dans une lettre diffusée par la Maison-Blanche. Le président se sent désormais suffisamment bien pour reprendre une activité sportive, a écrit le docteur Kevin O'Connor. Lundi, Joe Biden avait dit se sentir très en forme et espérer être pleinement de retour au travail dans la semaine. Les pompiers qui combattent depuis la semaine dernière un feu de forêt explosif ayant provoqué l'évacuation de milliers de personnes dans le centre de la Californie ont annoncé aujourd'hui avoir réussi à contenir partiellement le sinistre lundi matin. L'incendie baptisé Oak Fire n'était contenu qu'à hauteur de 10%. 24 heures plus tard, cette proportion atteint 26%. Ces rapides progrès ont été permis par la mobilisation massive de près de 3000 pompiers et de 24 hélicoptères, bombardiers d'eau, ainsi que par une légère amélioration du taux d'humidité qui devrait encore augmenter dans les prochains jours. Le feu de forêt s'est déclaré vendredi près de la petite ville de Mid Pines et a parcouru plus de 7000 hectares, se propageant à toute allure en raison notamment d'une extrême sécheresse de l'atmosphère et de la végétation. La Russie va arrêter de participer à la Station spatiale internationale après 2024, a annoncé mardi le nouveau patron de l'agence spatiale russe, Roscosmos. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique, retrouvez Mouamadou Oufa pour la Minute Éco.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé lundi soir un train de mesures pour soulager le secteur énergétique de son pays en l'ouvrant aux investissements privés et en misant sur le solaire. L'entreprise publique Eskom, qui produit plus de 90% de l'énergie, va augmenter son budget à la maintenance et ajouter de nouvelles capacités au réseau de toute urgence. M. Ramaphosa a précisé qu'Eskom mettrait au point un système tarifaire permettant au secteur privé de lui vendre son excédent d'énergie. L'entreprise pétrolière et gazière algérienne Sonatrach a annoncé lundi avoir réalisé 2 découvertes de gaz et une 3e de pétrole en collaboration avec son partenaire italien Eni. Au bassin d'Ilizi, dans le sud-est du pays, le forage du puits a révélé un débit évalué à 513 000 m3 de gaz par jour. Dans le bassin de Béchar, la Sonatrach explique, sans donner de chiffres, avoir obtenu une production intéressante de gaz. Le 3e puits découvert a révélé 51 000 m3 de gaz associé par jour. La Banque islamique de développement a annoncé la nomination de la Soudanaise Iba Ahmed au poste de directeur général du Fonds de solidarité islamique pour le développement. Ex-ministre des Finances, de la planification de son pays, elle prend les rênes de cette institution créée en 2007 et qui revendique plus d'un milliard de dollars de prêts et subventions approuvés en 15 ans.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Football. Les champions d'Afrique sud-africaine sont arrivés ce mardi dans leur pays.
Oui, les Bayana Bayana ont regagné leur pays après leur sacre à la CAN féminine Maroc 2022. Les champions d'Afrique ont été accueillis en héros par des centaines de supporters à l'aéroport international Hors Tambo à Johannesburg. Après 5 finales perdues, les Bayana Bayana se sont offertes le trophée pour la première fois de leur histoire grâce à leur succès 2-1 en finale contre le pays hôte, le Maroc. Désiré Elis, entraîneur des Bayana Bayana.
Chaque fois que les gens pensaient que nous étions au plus bas, cette équipe a relevé le niveau. Notre président, le docteur Jordan, dit que nous devons apporter de l'espoir à la nation, car chez nous, je sais que vous étiez en plein délestage et que certains d'entre vous n'ont peut-être pas vu le match. Mais nous avons senti l'amour, le soutien et surtout les prières.
Désiré Eliste, entraîneur de l'équipe féminine de l'Afrique du Sud. Ce titre est une consécration pour les Sud-Africaines qui ont réalisé 6 victoires en 6 matchs. Elles disputeront la Coupe du Monde 2023 aux côtés des Marocaines, des Zambiennes et des Nigérianes.
Le président nigérian félicite Toby Amusan.
Le président se joint à des millions de Nigériens pour célébrer cet exploit exceptionnel d'une compatriote et double championne des Jeux Olympiques qui en une nuit a stupéfié le monde de l'athlétisme avec sa performance exceptionnelle, indique un communiqué présidentiel. Dimanche à Eugene, ici aux États-Unis, Toby Amusan a remporté le titre de champion du monde du 100 mètres haies avec un chrono de 12,06 secondes, mais avec un vent dans le dos trop important pour que le chrono constitue un nouveau record. 2 heures avant, elle a effectué un chrono de 12,12 secondes en demi-finale, retenu comme record du monde de la discipline.
En Angleterre, Alison Brittain est la première femme à la tête de la Premier League.
La nomination d'Alison Brittain a été entérinée à l'unanimité par les 20 clubs de l'élite anglaise. C'est une première pour une femme. Madame Brittain était auparavant PDG de Whitbread, un groupe d'hôtellerie et de restauration après une carrière débutée dans le secteur bancaire. Elle succédera début 2023 à Peter McCormick, le président par intérim depuis janvier après la démission de Gary Hoffman en raison de la réaction hostile des clubs au rachat du club de Newcastle par un fonds d'investissement public saoudien.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manelakiza, place au dossier du jour. Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré demande pardon à la famille de son prédécesseur Thomas Sankara, mais aussi à l'ensemble du peuple burkinabé pour les souffrances endurées pendant ses 27 années au pouvoir. C'est ce qu'indique l'ex-chef de l'État dans un message lu par le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo. Blaise Compaoré était arrivé au pouvoir en 1987 à la faveur d'un putsch qui a coûté la vie au président d'alors Thomas Sankara. Il a été condamné par contumace à perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Ouagadougou le docteur Daniel Kéré, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara.
Dans le principe, on n'est pas opposé à un processus de réconciliation entre les filles et fils de ce pays. Mais dans le fond, il se pose un problème parce que qui a fait quoi à qui? Tant qu'on n'a pas clarifié les responsabilités, tant que les acteurs eux-mêmes ne viennent pas se confesser, je ne parle pas à travers un papier, un document qui est lu ou devant la presse, tant qu'on ne sent pas de la sincérité dans la démarche des acteurs de demander pardon, cela peut poser un problème.
Vous pensez que cela manque de sincérité, cette lettre?
Je pense que ça aurait été beaucoup plus indiqué si c'était le même président Compaoré qui faisait la déclaration, soit devant un micro, soit devant une caméra, qu'on sente vraiment de l'émotion, qu'on sente effectivement qu'il s'investit par lui-même dans cette demande de pardon. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, il faut le rappeler, c'est une jeune militaire qui est au pouvoir pour combattre le terrorisme. Actuellement, quel est l'agenda principal? Quelle est la mission principale de cette prise de pouvoir? Est-ce pour la sécurisation de ce pays ou bien est-ce pour les enjeux de réconciliation? Il y a des canaux privilégiés pour travailler à la réconciliation des filles et fils de ce pays. Si on utilise ces canaux, on n'a pas besoin de politiser ce dossier. Je pense notamment au ministère de la Réconciliation nationale qui existe. Et même indépendamment de cela, on a des organisations traditionnelles telles que la chefferie ou des organisations religieuses et, ou de la société civile qui peuvent avoir beaucoup plus de crédit pour porter ces dossiers auprès de l'opinion publique. Lorsque ce dossier est porté par les principaux dirigeants qui avaient présenté la lutte contre le terrorisme comme la principale justification du coup d'État, cela peut susciter des problèmes pour le public.
Je justement estime que la lutte contre le terrorisme passe d'abord par la réconciliation qui doit susciter cette union sacrée dans cette lutte-là.
Dans le principe, la question de la situation se posait même bien avant l'avènement du phénomène terroriste, parce que le dossier de Thomas Sankara a commencé depuis son assassinat en 1987. Donc, durant tout ce temps, il s'est toujours posé la question de la réconciliation nationale entre les filles et fils de ce pays. La bonne sécurité est une nouvelle dynamique qui vient s'ajouter. Donc, présenter l'élément de la réconciliation nationale comme un élément suffisant pour juguler le phénomène terroriste peut poser un problème parce qu'on estime d'une certaine façon qu'il y a une corrélation entre le terrorisme et l'absence de réconciliation. Et d'une certaine façon, les protagonistes de la réconciliation pourraient être également en arrière-plan de ces enjeux sécuritaires pour aboutir à une forme de réconciliation forcée.
Quelle est la suite selon vous?
La forme qui peut toucher le maximum de Burkinabè, c'est que, parce qu'on peut accueillir ce qui s'accorde pour Burkinabè, peut accepter de commencer à purger sa peine. Maintenant, au regard de son âge et au regard de ses anciennes habitudes, il peut avoir peut-être un arbre comme surveillé et peut-être même plus tard une forme de grâce présidentielle. Parce que c'est là on sent au moins une forme de passion du président concerné par rapport à la situation liée aux crimes de sang qui sont opérés sur son magistère. Maintenant, lorsqu'on essaie de s'écarter de cette dynamique, on court le danger de dévaloriser l'autorité de la justice parce que cela renvoie à l'idée que plus on est fort, une fois seulement qu'on prononce la demande de pardon, on peut se faire absoudre et éviter de purger la peine pour laquelle on a été condamné. Et ça, ça pose un sérieux problème pour renforcer la cohésion entre les Burkinabés.
Daniel Kéré, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, le président français Emmanuel Macron et son homologue Paul Biya ont eu tête à tête ce lundi. Ils ont abordé divers sujets d'intérêt commun, d'après les deux chefs d'État. Ils ont tenu une conférence de presse conjointe pour évoquer la situation politique du Cameroun ou encore la guerre en Ukraine. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
Emmanuel Macron s'est prononcé sur la crise anglophone et prôné la solution de la régionalisation pour résoudre ce conflit séparatiste.
Je demeure en effet convaincu que la régionalisation constitue une réponse à la grave crise qui continue d'affecter le pays dans ses régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et que c'est par ce processus politique, de dialogue, de réforme, d'avancée, de conciliation, qu'une solution durable pourra être trouvée.
Francis Simeux est expert en gouvernance. Il pense que l'approche du président français est opportune sur le conflit en zone anglophone.
Lors du grand dialogue en septembre 2019, le fait simplement d'avoir choisi d'accorder un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest laisse entendre qu'en réalité, il fallait donner aux populations du nord-ouest et du sud-ouest la possibilité de gérer elles-mêmes leurs problèmes.
Au cours de cette conférence de presse conjointe, le président Paul Biya a annoncé qu'il se prononcera seulement à la fin de son mandat en 2025 sur une nouvelle candidature.
Le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Mais autrement, ça sera su. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste.
Réaction de Fred Alex Ebé, cadre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale.
Bon, vous savez que généralement dans la culture bantou, à cet âge-là, on est déjà au village. Donc je pense qu'il est de bon ton qui commence à l'envisager.
Cette visite du président Emmanuel Macron au Cameroun est cependant loin de mettre tous les Camerounais en accord.
Pour moi, Macron avait l'obligation de venir au Cameroun parce que les relations... dans ses relations avec le Cameroun, on a senti son absence. Donc moi, je pense que c'est un devoir pour lui de venir ici.
Si véritablement Macron incarne la politique de ses prédécesseurs, c'est que ce n'est pas effectivement bien.
En marge de la visite du président français au Cameroun, une rencontre a eu lieu entre quelques parlementaires français et ceux du Cameroun, ainsi que les partis de l'opposition. Au centre des discussions, la question de la réforme consensuelle du code électoral au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la première visite du président français Emmanuel Macron en Afrique depuis sa réélection. Cette visite au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau va dans le sens du renouvellement de la relation de la France avec le continent africain, selon l'Élysée. Sa tournée intervient dans un contexte de remise en cause des relations entre la France et le continent par une bonne partie de l'opinion publique africaine. Le second mandat de Macron permettra-t-il de relancer les relations entre Paris et ses partenaires africains? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Deuxième jour de manifestation dans l'est de la RDC contre la présence onusienne dans le pays. À Goma, Beni et Butembo, les manifestants demandent le départ des forces de la MONUSCO. Notre correspondant, Zanem Neti Zaidi, nous en dit plus dans ce reportage.
Plusieurs dizaines de jeunes des Goma ont passé la nuit devant les bases de la Monisco vidées de leurs agents. Ce matin, une foule s'est à nouveau présentée à la base logistique de Goma pour tenter de lier ce qui restait après les coups de lundi. La police est intervenue, il y a eu encore des dégâts humains, plus de 10 morts et plus de 50 blessés selon les mouvements citoyens. Placide Itula est membre du mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha.
Parmi les manifestants, nous déplorons vraiment qu'il y a déjà des morts. Nous pouvons compter aux environs des 10 morts depuis d'abord la journée du lundi 25 juillet 2022. Quelque chose qui est condamnable parce que la Monisco fait partie, je dirais, de la communauté internationale qui défend les droits de l'homme.
Dans un communiqué de presse publié hier soir, la Monisco a fermement condamné les attaques de ses bases à Goma et a déclaré qu'elle était à la disposition du gouvernement pour continuer à travailler ensemble afin de rétablir la paix et la sécurité. Le professeur Dadis Salé, analyste politique, soutient que le départ de la force de l'ONU est la solution la plus urgente à la crise.
On n'a pas le droit de penser qu'on doit prolonger cette mission. Non, on doit d'abord l'arrêter, que la Monisco dégage. La Monisco en partant, naturellement, les Congolais vont se prendre en charge. Il faut bien comprendre que si la Monisco ne part pas, avec la conscience collective qui s'installe de plus en plus en République démocratique du Congo, il ne faut pas s'attendre à des bons résultats. Sauf si effectivement les gens continuent à utiliser de la dictature, intimider la population.
Depuis la ville de Beni, où il est en mission, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, tout en disant comprendre la colère de ses administrés, leur a demandé de cesser d'attaquer les agents de la Monisco et de se tourner plutôt vers le gouvernement congolais, qui seul peut prendre la décision nécessaire.
La Monisco était venue sous la demande de notre gouvernement. La population s'adressera toujours à notre gouvernement, qui va prendre des mesures qui s'imposent. Moi, je crois qu'ils sont en train de souffrir dans leur chair, notre population, et moralement aussi. Nous sommes en train de gérer la situation. Je crois que la solution sera trouvée.
Ce même mardi, des manifestations ont également éclaté dans les territoires de Rutshuru et de Lubero, mais aussi dans les villes de Beni et de Butembo. Zanem Netizaïdi à Goma pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
En Côte d'Ivoire, les résultats du baccalauréat sont connus depuis ce lundi. Au total, 319 847 candidats ont été reçus. Le taux de réussite générale est de 30,78%, soit 98 446 lauréats. Aïcha Diarra, notre correspondante depuis Abidjan, nous donne les détails.
L'ambiance dans l'ensemble des 525 centres d'examen du baccalauréat dans tout le pays. Cet examen qui consacre la fin des études secondaires est aussi le premier diplôme universitaire. Décrocher le bac, c'est une joie immense et débordante pour Lassina Camara, joie encore plus grande à l'idée de n'avoir plus à porter le kaki, la tenue scolaire réglementaire pour les garçons de la 6e à la terminale.
Quand je regarde même là, depuis au début de l'année là, j'ai fait kaki jusqu'à aujourd'hui là. Même si elle dit que je vais manger, j'ai crié non, jusqu'à un tessin avant de sortir. Aujourd'hui là, mon kaki est lâché à nous. Aujourd'hui, elle est mon père qui travaille demain. Elle a montré à ma famille qu'elle était un garçon aussi. Ok, je remercie aussi le président de la République. Et je remercie aussi Maria Toukone. Et puis aujourd'hui là même là, c'est la fête au kaki.
Parmi les filles candidates, Astacila a réussi.
Ça me fait tellement plaisir que je ne sais pas comment exprimer ma joie, quoi. C'est ce dit. On dirait nos enfants bénis aujourd'hui là seulement. Maman m'a béni comme fatiguée. Non, je remercie le Dieu Tout-Puissant. On remercie les parents avec les professeurs.
Un taux d'échec de 69,22%, c'est avec le cœur déchiré que Mariam Dosso a regardé le résultat.
Je sens de la peine, je suis découragée de moi-même. En tout cas, je suis heureuse.
Mélanie Yapi se donne beaucoup d'espoir pour l'année prochaine.
Je ressens une douleur. Si ils n'étaient pas trompés sur ma convocation, si j'avais mis espagnol, j'allais avoir mon bac. Mais ils se sont trompés, ils ont mis allemand, ils n'ont pas eu mon bac. L'année prochaine, là, comme c'est ma première fois, l'année prochaine, là, j'ai mon bac l'année prochaine.
Avec 30,78%, le baccalauréat cette année a un taux de réussite à la hausse de 1,54% par rapport à l'année dernière. Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Merci à Michel Joseph de la production pour la mise en onde et la réalisation de cette édition. Merci également à toute l'équipe de la rédaction. Au micro, Eric Manilakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, sur votre site voafrique.com, sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr.